On a commencé une petite série sur être une nouvelle créature en Jésus, puis on va en avoir pour quelques études à venir sur ce sujet-là, puis on va toucher certains points sur cette nouvelle vie-là. Ça a plusieurs buts quand on parle de sujets comme cela. Premièrement, je pense que Dieu veut former son peuple, il veut nous former avec la révélation de sa parole. Puis il est important qu'on sache ce que la Bible dit à propos de cela. Pourquoi? Premièrement, pour toujours s'évaluer face à Dieu, sonder notre cœur, analyser où ce qu'on en sommes rendus. Paul a dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que le Saint-Esprit il habite en vous? Ça, c'est une analyse qu'on doit faire pour toujours faire le point. Je suis encore dans la communion avec l'Esprit-Saint. Je suis encore en train de m'abreuver de son esprit. Je suis encore en feu pour Jésus. Mais ça, c'est pour nous remettre en question nous-mêmes. Puis quand on réalise que oui, mais ça nous donne de l'assurance parce qu'on s'examine face à la Bible, à la parole de Dieu. Un autre point, pourquoi que c'est important de le savoir, c'est pour démêler les autres qui savent pas c'est quoi le chemin. Puis là, ils s'imaginent qu'à cause qu'ils ont une religion, que tout est beau puis qu'ils s'en vont au ciel. Mais faut que tu examines ce que la Bible dit. Qui va au ciel, puis etc., puis comment est-ce qu'on y va? Puis là, après ça, tu peux les démêler pour leur expliquer, la Bible a dit ça, la Bible a dit ça. On a besoin de le savoir. Pourquoi qu'un chrétien il sera intéressé de savoir ce qu'il y a dans la Bible? Parce qu'on veut suivre le Seigneur puis sa parole. Amen. C'est aussi simple que ça. Si tu veux suivre sa parole, c'est de bâtir ta foi sur ce qui a été révélé. Il dit, mon juste vivra par la foi, mais la foi en qui? La foi en quoi? C'est quoi? Y a-tu des limites dans tout ça? Là? Oui, il y en a. On avait un peu, à la semaine passée, sur être une nouvelle créature, qu'on avait reçu le sceau de Dieu quand tu nais de nouveau, tu appartiens au Seigneur. Il y a encore des éléments qu'on va regarder. Premièrement, ce matin, on va regarder l'importance d'expérimenter la nouvelle naissance. Comment c'est important que tout le monde l'expérimente. Combien est-ce qu'il y a de religions sur la terre, vous pensez, présentement? Il y a au moins 7-8 grandes religions, les plus importantes, sans compter les petites religions que là, des fois, il y a juste une secte qui a telle religion. Mais de les 5-6 grandes religions découlent aussi plusieurs branches. Parce que, mettons, dans le monde chrétien, dans le monde large chrétien, ça comprend les catholiques et les protestants. Mais même dans les protestants, si tu subdivises, il y a des baptistes, des pentecôtistes, des mennonites, des frères en Christ, des méthodistes. Y en veux-tu des istes? Il y en a toute une liste de istes. Puis là, ça c'est juste dans le christianisme, sans compter les branches de la foi juive. Il y a des différentes branches dans la foi juive. Sadducéens, les pharisiens, ça a changé de nom aujourd'hui, mais il y a encore des groupements. Puis dans la foi musulmane, c'est la même affaire. Les schistes, puis les sunnites, puis tout ce que tu voudras, là, un autre. Puis là, dans toutes les religions, l'hindouisme ou ça, il y a des variantes. Sans compter la quantité de monde qui ont. Parce que comment est-ce qu'il y en a de personnes qui ont adopté un mode de vie religieuse sur cette terre? Mais dans les statistiques, il y aurait 80%, 8 personnes sur 10 seraient une personne religieuse. Mais là, ça comprend toutes les religions, mais l'ensemble. Puis plus tous ceux qui ont adopté un mode de vie religieux face à, ils croient qu'il y a un Dieu quelque part, puis ils ont un mode de vie à suivre. Il y aura 8 personnes sur 10 dans le monde qui seraient comme ça, puis peut-être 2 sur 10 qui sont athées, puis qui veulent pas croire en rien. Il y en a des religions, puis il y en a du monde qui croit. Mais combien là-dedans, dans tout cela, qu'il y a de personnes qui pensent rentrer dans le paradis à la fin de leur vie? Quasiment toutes veulent être sauvées, puis veulent le bonheur, la paix, puis un bien-être, puis être dans un endroit où peut-être se réincarner en maringouin. Il y en a qui veulent se réincarner. Mais dans l'ensemble, tout le monde espère d'avoir un meilleur après, puis ils suivent leur karma, puis si leur karma est bon. Mais ils ont toutes sortes de philosophie puis de raisonnement pour essayer d'en nier leur vie selon leurs croyances. Il y en a tellement de choix. Puis Jésus, lui, il a résumé tout ça en une seule réponse. Sans la nouvelle naissance, tu peux pas être sauvé. T'as beau avoir la religion que ça voudra, t'as beau suivre les rites religieux, de suivre des belles cérémonies, de faire beaucoup de bonnes œuvres, ça sauve personne. C'est ça qui est le pire. Il y a peut-être 7-8 milliards de personnes sur la Terre, là. Combien est-ce qu'il y en a? 7-8? Puis il y aura 80% de ce monde-là qui suivent des religions pour améliorer leur vie ou leur vie après la mort. Puis tout ça, ça sert à rien s'ils naissent pas de nouveau. Jésus, dans Jean 3:3, il dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Un seul critère. Il base pas ça sur une religion. Il base pas ça si c'est des bonnes personnes. Il base pas ça s'ils ont mené une bonne vie puis ont fait beaucoup de bonnes œuvres ou s'il y avait la meilleure religion ou la religion qui avait le plus d'adeptes. Ça compte pas tout ça. Une seule chose que ça prend pour décoller, pour dire que tu as l'assurance dans la vie éternelle ou d'avoir ce que Dieu a donné, faut que tu naisses de nouveau. De même que nous, on est nés d'eau en sortant de notre mère, parce que Nicodème, lui-là, il comprenait pas ça. Là, dans Jean 3:3, c'est le passage de Jésus qui est en train de parler avec Nicodème. Puis Nicodème, c'est un chef religieux dans l'époque, parmi les Juifs. C'est un gars qui expliquait la Bible. Quand Jésus il a dit ça, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux entrer dans le royaume. Il savait pas de quoi est-ce que Jésus parlait. Même s'il était dans la religion de Dieu, il connaissait pas, il comprenait pas que ça faisait partie du plan de Dieu. Puis Dieu en avait parlé dans l'Ancien Testament, dans certains passages. Il dit, voici mon alliance que je ferai avec eux. J'écrirai mes lois dans leur esprit puis dans leur cœur. Puis je vais changer le cœur de pierre en cœur de chair. Puis il parlait de transformation, qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, puis il va rendre libres les captifs. Puis il se pose de quoi avec l'Esprit de Dieu dans une communion avec la personne. Mais il voyait pas ça. Puis Jésus est obligé d'y expliquer. La même chose que quand une personne vient au monde, elle sort de l'eau. Hein? Pour être un humain, là, on sort de l'eau. On est dans le ventre de notre mère, dans le liquide amniotique. Ça représente de l'eau. Il a fallu que tu naisses pour être un humain. Puis là, Jésus, il a expliqué à Nicodème, il faut que tu naisses de l'esprit. Tu naisses de nouveau, que tu naisse de l'Esprit, que quelque part dans ta vie, que le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Là, Nicodème, il a posé la question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est ça la question, il comprenait ça juste sur le plan humain. Jésus, il dit, il faut qu'un homme naît d'eau et d'esprit. S'il n'est pas d'eau et d'esprit, il peut pas entrer dans le royaume. Fait que t'as beau avoir la religion que ça voudra, suivre les pratiques que tu veux, si t'es pas né de nouveau, tu peux pas rentrer. Puis Jésus continue cette idée-là, il dit, si t'es né de la chair, en venant au monde de ta mère, t'es chair. Mais si tu nais de l'esprit, tu es esprit. Il y a quelque chose qui se passe à partir du moment où ce qu'une personne naît de l'esprit. Sa vie change. C'est comme une nouvelle naissance. Tu pars à zéro avec l'esprit. L'Esprit de Dieu. Il dit, il, au verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Ça, c'est la bonne, pas la bonne question, parce que c'est pas une question, c'est une affirmation. Es-tu né de nouveau? C'est ça qu'il faut que tu prennes conscience. T'as-tu reçu le Saint-Esprit dans ta vie à un moment donné? T'as-tu parti cette nouvelle vie-là avec l'Esprit de Dieu? Parce que quand l'Esprit de Dieu rentre dans une personne, il se passe quelque chose. On va le voir dans un verset plus loin. Il dit, l'Esprit, lui, il souffle où il veut. Tu entends bien sa voix, mais vous ne savez ni où il vient, ni où il va. Mais il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Il dit, quelqu'un qui est né de l'esprit, là, mais il va être sous le souffle de l'esprit. Il va entendre sa voix. Il va s'en aller en étant dirigé d'un bord et de l'autre. Puis, il va se laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait que tu es une nouvelle créature. On veut expliquer ça, être une nouvelle créature, c'est ça l'étude qu'on est en train de faire. Pour qu'on puisse, ceux qui l'ont déjà reçu, s'affirmer, grandir dans la foi, à s'affirmer dans notre confiance qu'on fait partie de la gang, puis si on réalise qu'on est déconnecté de l'Esprit, peu importe la raison pourquoi que ça peut arriver, on peut être déconnecté, ben de se repentir, de retourner à Dieu, puis de vouloir encore que l'Esprit souffle dans notre vie, puis qu'il nous parle, qu'on entende sa voix, puis qu'on se sent dirigé par lui. C'est important, parce que si on ne l'a pas reçu, ben on peut pas être sauvé. Une personne qui reçoit l'Esprit de Dieu, c'est à partir de ce moment-là qu'elle est sauvée. Qu'elle commence à marcher dans le chemin du salut, dans la communion avec l'Esprit Saint qui est avec Jésus, bien entendu. Dans Jean 1, 12, ça nous dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Fait que quand tu reçois Jésus, tu crois dans son nom, ça te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que la question qu'on doit, quand on l'annonce aux autres, la question qu'on doit demander aux autres, t'es-tu né de nouveau? T'as-tu reçu le Saint-Esprit? Puis si le gars, il sait de quoi tu parles, lui, il va dire, oui, j'ai mis ma foi en Jésus, puis je l'ai reçu, donc je sais que je suis sauvé. Ça, c'est le commencement de ta nouvelle vie. Mais s'il n'a pas passé par là, c'est important qu'il réalise qu'il faut qu'il le reçoive. Sinon, il pourra penser qu'ils vont au ciel, puis il est dans un mauvais chemin qui l'emmène l'autre bord. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'esprit. Il y a plein de religions qui croient en l'esprit comme une théorie, mais ils ne comprennent pas que tu peux vivre un changement quand tu le reçois. Dans la Bible, une personne possédant l'esprit est appelée un homme spirituel. Donc, on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 et 16. Ça nous dit, l'homme spirituel, ça veut dire l'homme animé du souffle de l'esprit. T'es un homme spirituel à partir du moment que l'Esprit de Dieu te parle, puis qu'il te souffle ta direction, il te souffle tes pensées, il te fait comprendre la parole de Dieu, il te dirige à droite et à gauche. T'es appelé un homme spirituel, puis là, tu commences à discerner la volonté de Dieu. Ça nous dit dans ce passage-là, 1 Corinthiens 2, 15 et 16, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, puis lui, il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voyez-vous, quand tu es né de nouveau, l'Esprit Saint est entré dans ta vie, puis là, tu as commencé à avoir les pensées de Christ. Tout à l'heure, je t'ai dit, l'Esprit souffle où il veut et vous entendez bien sa voix. Quand tu entends la voix de l'Esprit, c'est un signe que l'Esprit est avec toi. Il te dirige, il te montre des affaires, il te conduit, il t'enseigne, il te transforme, il te donne des paroles, il te donne de la force. C'est lui qui nous anime, qui nous souffle en nous. Mais c'est ça qui se passe, qui parle de l'homme spirituel, il en vient être capable d'analyser les choses de Dieu. Puis ça dit dans le verset, « Or, nous avons la pensée de Christ ». Jésus nous parle par son esprit. On commence à penser comme Jésus pensait, inspiré par lui. C'est important qu'on vive cela. Il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu vous confirme que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous entendez sa voix? Est-ce que vous voyez des choses, qu'il vous montre des choses? C'est là qu'on sait qu'on est dirigé par lui. Si on vit plus ça, on a besoin de s'arrêter puis de faire le point avec Dieu parce qu'on est tous supposés de vivre cela. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Et je les connais, autant que Jésus nous connaît, nous on le connaît, on entend sa voix, on le suit, puis il nous donne la vie éternelle, puis on ne périra jamais. Amen, merci Seigneur. Le message central de Dieu dans le Nouveau Testament, là, c'est qu'individuellement, quand je parle individuellement, c'est chaque individu sur cette planète, chaque personne, qu'elle devienne une nouvelle créature. C'est ça qui est le message de la Bible. Des fois, on se berce en chantant des beaux chants sur la félicité du ciel. On est content qu'on s'en va au ciel. On se berce. Pensez-vous que Dieu veut qu'on soit arrêté en tout temps, puis juste à se bercer toute notre vie sur notre salut, ça c'est qu'on est sauvé? Dieu, là, son cœur, c'est qu'il veut voir chaque individu autour naître de nouveau. Ils sont tous mêlés dans leur religion, puis ils savent pas comment faire pour être sauvés. Puis ils se font désaccroire. Comme quelqu'un qui est musulman, qui se fait exploser, puis il pense qu'il s'en va au ciel à cause de ça. Il s'est fait tromper par des mensonges incroyables. Il va arriver l'autre bord, puis c'est les temps de feu qui va l'attendre. Parce que t'es pas né de nouveau premièrement, puis il marche pas dans le sentier de Jésus non plus. Mais comprenez que le plan de Dieu, c'est de vouloir que chaque individu naisse de nouveau pour qu'elle soit sauvée. Il n'y a pas d'autre manière pour rentrer. C'est important. Dans Galates 6,15, ça nous dit, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. » Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Faut que tu aies été né de nouveau, que tu aies eu une nouvelle vie qui a commencé par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est important, que tu sois une nouvelle créature. Le beau à ta fin circoncis, pratiquer la religion juive, même tout cela, ça ne sert à rien. Paul l'a expliqué, il dit, faut que tu naisses de nouveau, Jésus a dit, puis il faut que tu sois une nouvelle créature, que tu marches dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Le souffle de Dieu. Cette vie nouvelle-là, mais est en Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui nous donne l'accès pour naître de nouveau. C'est lui qui est la porte qui nous permet de naître de nouveau. C'est lui qui est le sacrifice pour qu'on soit pardonné, pour qu'on puisse naître de nouveau. Dans ce sens-là, là, on n'aura pas pu naître de nouveau. Dans 1 Jean 5, 11 et 12, ça dit... Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, puis celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tout se joue autour de Jésus. Tu l'as-tu reçu, Jésus, dans ta vie? Y es-tu rentré dans ta vie? Quand tu reçois Jésus, je l'ai dit la semaine passée, tu reçois l'Esprit Saint, tu reçois Dieu le Père en même temps. Tu reçois Jésus, tu reçois Dieu le Père et le Saint-Esprit en même temps. Il dit, si tu as le Fils, tu as le Père, puis tu as le Saint-Esprit, puis tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Fait que c'est important que les gens le réalisent. On va regarder un peu sur une autre idée là-dessus, à propos d'être une nouvelle créature. On va voir, dans quelques passages, ce que n'est pas être une nouvelle créature. Parce qu'il y a des gens qui font un bout, mais ils sont pas nés de nouveau, puis ils se pensent corrects. Puis on va voir des passages dans ce sens-là. Qu'est-ce que ce n'est pas être une nouvelle créature? Comme par exemple, croire en Dieu et croire que Jésus est le Sauveur et le Seigneur ne veut pas dire que nous sommes automatiquement nés de nouveau. Tu peux le savoir que Jésus c'est le Sauveur. Tu peux savoir que Dieu existe. Tu peux savoir qu'il a tout créé. Tu peux savoir que la Bible est là, puis que c'est la parole de Dieu, puis pas être né de nouveau. Même si tu y crois en Dieu, tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus qui est mort sur la croix, tout ça, même si tu y crois, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Y a-t-il un « ouch » ou un « amen » Dans Jacques 2,19, ça nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Juste croire, c'est pas suffisant. Il y en a du monde qui croit en Jésus, mais qui, dans leur vie, ils pratiquent n'importe quoi. Ils suivent n'importe quoi. Ils croient en Jésus. Ils pourraient s'ostiner avec toi et ils pourraient te confirmer qu'ils croient. Mais si leur vie ne va pas avec ce qui est écrit, ils sont dans le champ. Les démons aussi croient en Dieu puis croient en Jésus. Quand ils voyaient Jésus, ils disaient, « Tu es le Saint de Dieu! » Puis ils tremblaient. Puis là, Jésus leur commanda de sortir puis il était obligé d'obéir. Juste une simple croyance, c'est pas suffisant. Fait que, est-ce que croire en Dieu, c'est suffisant pour dire qu'on est né de nouveau? Absolument pas. Une autre idée là-dessus, c'est être un auditeur intéressé aux paroles de Jésus ne veut pas dire que nous sommes nés de nouveau. Tu peux être une personne qui lit la Bible à tous les jours, qui prend un temps pour la lire, la méditer, l'étudier, aimer ce que Jésus a dit, être d'accord avec ce que Jésus dit, puis ne pas être né de nouveau. Le fait de connaître la Bible fait pas de toi une personne née de nouveau. Il y en a comme ça du monde qui se sert de versets de Bible à la tonne, mais ils enseignent pas la doctrine comme qu'elle est, puis ils ont jamais été nés de nouveau. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ils ont pas reçu le pardon de leurs péchés parce qu'il leur manque des éléments essentiels qu'on va voir dans la suite de la prédication, mais peut-être pas qu'aujourd'hui. On va en voir un peu à chaque semaine. Jésus, dans Jean 8, 31 et 32, regardez bien ce qui est écrit là. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ces Juifs-là, là, ils étaient autour de Jésus. Partout où Jésus allait, ces Juifs-là suivaient Jésus. Ils écoutaient ce que Jésus disait. Ils étaient d'accord. Ils voulaient apprendre. Ils voulaient suivre Jésus. Bien, il était autour, disons, qui était bien intéressé aux paroles de Jésus. Jésus leur a dit quelque chose d'important. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. » Si vous demeurez dans ma parole, il est en train de parler à des Juifs qui croyaient en lui. Mais pour Jésus, juste croire en Jésus ou admettre que les paroles de Jésus sont vraies, c'est pas suffisant. Jésus veut que tu demeures dans sa parole, que tu restes dans sa parole, que tu marches dans sa parole, que tu vives, que tu veux vivre sa parole, tu veux le suivre. Combien est-ce qu'il y en a du monde qui t'es a vu? Oui, on croit en Jésus, puis on accepte Jésus, puis au bout d'un an, t'es où et plus. Des fois moins que ça. Ils viennent, oui, ils sont contents, mais t'es où et plus. Ils suivent pas. Ils ont pas vraiment... Oui, il y en a qui ont été touchés par le Saint-Esprit, mais pour dire que tu connais la vérité puis que la vérité t'affranchisse, ça prend plus que juste une journée de connaître Jésus. Faut que tu demeures, puis t'expérimentes, puis tu marches avec le Seigneur, puis c'est là que ça commence à faire du changement. Oui, il y a des choses qui se passent quand tu vas écouter Jésus. Tu peux recevoir une guérison, tu peux être délivré d'une affaire, il y a du monde qui vont prier pour toi. Il y a du monde qui connaît Jésus, qui vont prier pour toi, et tu vas être touché. Tu peux même entendre Dieu te parler chez vous, dans ta chambre, puis pas encore être décidé de suivre Jésus. Parce que le critère pour être un disciple, Jésus te demande, renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi. Suivre Jésus, c'est de s'engager. C'est un engagement. C'est vouloir rester dans sa parole, vouloir la mettre en pratique. C'est ça l'engagement. Faut que tu sois prêt à dire, ma vie, là, quand Je ne veux plus faire ce que j'aimais. J'aime tellement Jésus que c'est lui que je veux suivre. Puis quand tu t'enlignes dans ce sens-là, c'est là que tu vas expérimenter les choses que Dieu te demande. Puis c'est la vérité. Fréquenter des chrétiens ou aller à l'église ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Tu peux être une personne qui est née dans l'église. Tes parents étaient chrétiens avant toi, puis là, t'es né dans ce temps-là parmi des chrétiens, t'as vécu toute ta vie dans l'église, puis ça se peut, tu sais même pas né de nouveau. Te tenir avec des chrétiens, mettons, tes meilleurs amis, ça serait un couple chrétien engagé pour le Seigneur, ça veut pas dire que tu tiens, même si tu tiens avec eux autres, que toi, tu vas être né de nouveau. Le né de nouveau, c'est quelque chose que tu vas expérimenter toi-même. Mais si tu tiens avec des gens qui l'ont expérimenté, ça ne veut pas dire que toi, tu l'as expérimenté. Il faut que tu fasses le point dans ta vie. Oui, ils peuvent te communiquer des belles affaires, te dire des belles affaires, te prier pour toi, puis tu vas être touché par Dieu, Dieu va te montrer des affaires, mais tu n'es pas encore né de nouveau si tu ne t'es pas engagé à suivre Jésus. On voit ça dans Actes, chapitre 19, les versets 1 et 2. Des gens qui étaient réunis, puis ils passaient pour être des disciples. Paul y arrive là, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, c'était des gens qui avaient de l'air des disciples, c'était sûrement une église où ce que des disciples étaient réunis. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Ça veut dire que tu peux être debout dans une église, à prier à tous les dimanches, à assister au culte, à louer le Seigneur avec les chants, écouter le sermon, puis jamais avoir été né de nouveau. Tu penses pour être un disciple aux yeux humains, tu vas être parmi les disciples, puis ça se peut que tu ne sois même pas un né de nouveau. Parce que s'ils n'ont pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont loin de l'avoir reçu, leur vie a jamais été changée. Si tu n'es pas né de Dieu, si tu n'as pas reçu l'Esprit parce que tu l'ignorais qu'il y avait un Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Tu peux être assis là et tu perds ton temps. Ça ne sert à rien. Voyez-vous comment ça peut être subtil? Comment est-ce qu'il y en a d'églises, qu'il y a des églises comme des mouvements de masse? Puis il y a beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens qui sont là. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont même pas nées de nouveau, puis ne savent même pas qu'ils sont pas nées de nouveau, puis ils ne savent même pas qu'il fallait qu'ils naissent de nouveau. Puis quand ils n'ont entendu parler, ils disent, j'ai été baptisé à naissance, je dois être né de nouveau, ou ils se fient sur autre chose que ce que la Bible a dit, puis ils pensent qu'ils sont nés de nouveau, puis ils ne sont pas nés de nouveau. Puis s'ils meurent dans cette condition-là, mais ils ne rentreront pas dans la vie éternelle, même s'ils ont passé toute leur vie dans une église. C'est sérieux. Le fait de se faire baptiser d'eau, mettons que tu dis, j'ai été baptisé d'eau, mais même si tu as été baptisé d'eau, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. C'est assez fort. Il y a beaucoup de gens qui font comme, ils vivent une vie religieuse avec d'autres personnes, puis ils se sont fait baptiser, peut-être 3-4 amis, 3-4 de la même famille, ils se font tous baptisés en même temps, c'est la fête, mais la personne, elle se fait baptiser, mais elle n'a pas compris qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle fait une vie religieuse, une vie pieuse. La personne veut s'améliorer, peut-être qu'elle aime le pasteur, puis elle aime écouter cela, mais pas là pour la bonne raison. Puis elle se fait baptiser, elle n'a pas compris c'était quoi. Puis elle n'a pas reçu le Saint-Esprit, bien entendu, parce qu'elle ne s'est pas repentie, pas née de nouveau. Fait que c'est un jeu, c'est comme faire une religion. Puis comme je vous disais au début du message, il y en a des milliards de personnes sur la Terre. S'il y a 80% du monde qui sont pieux ou qui pratiquent une religion quelconque par rapport, qui ont un mode de vie par rapport, qui croient qu'il y a une puissance supérieure, mais ils veulent s'améliorer, mais ils sont pas dans le bon chemin, ils croient pas aux bonnes affaires. où ils ne croyaient pas au Messie, puis ils ne croyaient pas en sa parole, puis ils ne croyaient pas qu'il fallait qu'ils se repentent, puis qu'ils suivent Jésus, puis être prêts à s'engager, à suivre Jésus, à marcher dans sa parole. Tant que tu n'es pas arrivé là, tu n'es pas né de nouveau encore. Fait que les gens, pour être religieux, vont à l'Église, puis des fois, c'est de père en fils, de génération en génération. Mes arrière-arrière-arrière-grands-pères allaient à l'Église. Mes arrière-arrière-grands-pères allaient à l'Église. Mon arrière-grand-père allait à l'Église. Mon grand-père allait à l'Église. Mon père allait à l'Église. Moi, j'allais à l'Église. Mes enfants, ils vont à l'Église. Mais personne ne sait pourquoi ils sont là. Personne n'a été né de nouveau dans toute cette histoire-là. Des générations entières suivent des religions par coutume, par tradition. Puis ils répètent ce qu'ils ont vu, mais ils ne connaissent pas la vérité. Jésus dit, si tu demeures dans ma parole, tu vas connaître la vérité, puis la vérité t'affranchira. Tu vas être libre. Si tu demeures en Jésus, tu peux être assis à l'Église, puis n'avoir aucune communion avec l'Esprit de Dieu. Tu peux avoir été baptisé d'eau, puis pas avoir de communion avec l'Esprit de Dieu. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Actes 8, 12. 12 à 15. Le fait de se faire baptiser d'eau ne veut pas dire que nous sommes nés de nouveau. On voit l'histoire de Philippe, qui est un évangéliste, puis il est allé prêcher en Samarie. Puis, à partir du verset 12, il dit, « Quand ils eurent cru à Philippe qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Fait que là, il y avait un mouvement de réveil, puis il y avait plein de monde qui sont fait baptiser. Ils voyaient les miracles que Philippe faisait, il priait dans le nom de Jésus, puis Philippe était un né de nouveau, puis il marchait dans le Saint-Esprit, puis il se passait c'était un évangéliste, il se passait des miracles, puis il prêchait la parole, puis plein de monde se faisait baptiser. Là, ça nous parle d'un personnage qui s'appelle Simon, au verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. C'était puissant, là, Philippe, là, il faisait plein de miracles. Puis lui, Simon, lui, quand il a vu les miracles, il suivait Philippe, puis il était étonné de tous ces miracles-là, puis il avait été baptisé, lui, avec. Puis là, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Comment ça? Ils ont tous cru, ils ont tous été baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est la même chose pour l'autre groupe de tantôt, quand je vous disais que Paul, il rencontre des disciples, puis il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Ça dit qu'à part après, il les a expliqué la parole de Dieu dans la bonne façon, puis il les a rebaptisés, puis il a prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Tu peux avoir été baptisé d'eau, être dans une église, tu peux écouter, lire la Bible à tous les jours, tu peux être une personne qui prie, comme Corneille. Corneille, là, il priait Dieu, puis faisait des aumônes à Dieu, puis il était un homme pieux, puis il n'était pas encore sauvé, puis il faisait plein de bonheur, puis un ange lui a apparu, puis il a dit, tu vas aller chercher Pierre, puis il va t'enseigner les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Tu peux être une personne pieuse, puis être encore sur le chemin de la perdition. Voyez-vous, faut naître de nouveau. Faut devenir une nouvelle créature. Tout le monde, sans exception, doit passer par là. Même le pape, faudrait qu'il devienne. Il n'y a pas de personne qui ne peut pas se permettre de l'être. On court tout après la mode aujourd'hui, mais la mode de Dieu, c'est « sois né de nouveau ». Engage-toi à suivre Jésus. Repens-toi de tes péchés. Suis le Seigneur. Tu vas être pardonné, puis tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas naître de nouveau. Tu vas être sauvé. Amen. Mais le commencement du chemin, il commence là, à partir du moment que tu nais de nouveau. Même encore pire que ça, pratiquer des œuvres religieuses ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Jésus était là, il y a 2000 ans, sur la terre, puis il parlait aux Juifs. Les Juifs, c'était pas n'importe qui. C'était le peuple choisi de Dieu. C'était le peuple qui détenait dans leurs mains les paroles de Dieu. Ils avaient été choisis pour être des représentants de Dieu sur la terre, puis de pouvoir communiquer la parole de Dieu aux gens. Ils étaient des ambassadeurs de Dieu. Puis il y avait leur religion, là, ils suivaient fidèlement, puis Jésus leur a dit, vous payez la dîme, là, même de la menthe, de la nette, puis du cumin. Il allait jusqu'au de la menthe, là, il payait sa dîme, là, même sur un buisson de menthe chez eux. Il voulait tellement suivre à la lettre, là, que même ses épices, c'est le nombre de feuilles d'épices, il devait compter les feuilles, bon, mais 100 feuilles, j'en donne 10 au Seigneur. Il était au bout à vouloir suivre. C'était des hommes extrêmement religieux, mais pas nés de nouveau. Dans Matthieu 23, le verset 14, Jésus a dit à ces gens-là, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Faire des œuvres par apparence, pour faire comme les autres, ou pour montrer que t'es un gars qui prie. Hein. Check, écoutez-moi bien, là, moi, vous en faire une belle prière. Là, il te sort ça, là. Puis là, tout le monde sont là. Ah, les mots là, sont là. Ils sont tous ébahis par les prières. C'est de l'apparence. Il y en a qui suivent une religion pour l'apparence. « Oh, lui, c'est un gars pieux, il va à l'église à tous les dimanches. » T'sais? Ou il donne dans le tronc. « Oh, il est généreux, ce gars-là, il donne dans le tronc. » Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas donner, mais s'il fait ça parce qu'il fait son don, il y a la photo dans le journal avec le chèque puis le gros chiffre qui est écrit pour montrer qu'il a été un gars bien généreux. Mais c'est de l'hypocrisie aux yeux de Dieu. C'est pas ça que Dieu s'attend. Il dit ça, là, des gars de même, c'est des hypocrites. C'est pas des gens qui sont nés de nouveau, puis qui sont sauvés, puis qui ils font pas les choses parce que ça découle de leur communion avec Dieu. Ils font les choses pour les apparences, la religion. Puis quand t'es dans ce chemin-là, t'es perdu, même si tu pratiquerais les œuvres que ça voudra. C'est pour ça que ça en fait des choses à s'examiner. Parce que là, je dis pas ça pour qu'on examine les autres, là. Est-ce que je suis un vrai chrétien? Est-ce que je suis authentique? Je vis-tu une relation avec le Seigneur? Son esprit me dirige-t-il encore aujourd'hui? Ou je l'ai-tu déjà reçu? Puis si je l'ai reçu, je l'ai-tu encore aujourd'hui? Je suis encore en contact? Faut faire le point. Puis si on a perdu des bouts à quelque part, faut demander pardon au Seigneur pour être renouvelé. Faut pas mourir séparé d'avec lui. Faut mourir en communion avec lui. Il dit, tout serment qui est en moi porte beaucoup de fruits. Mais si on demeure pas en lui, il nous retranche. C'est ça qu'il dit. Faut que tu demeures dans la parole. Faut que tu demeures en communion avec l'Esprit de Dieu. Faire pour l'apparence de longues prières. La Bible est claire. Si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. On voit ça textuellement dans Romains 8, 9. Ça nous dit, pour vous, si vous vivez selon la... Si vous vivez, voyons. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Fait que tu peux être une personne qui aime entendre parler de Jésus, qui aime lire la parole de Dieu, qui s'assied à l'église, qui se tient avec des chrétiens, qui font l'apparence des longues prières, puis pas être à Jésus. Pas être une personne née de nouveau. Parce que c'est pas une conversion authentique que tu as faite. Puis c'est important qu'on ait une conversion authentique. Parce qu'il y a juste une façon pour recevoir le cadeau de Dieu, c'est la même façon pour tout le monde. Ce cadeau-là, c'est le Saint-Esprit, puis pour le recevoir, il faut que tu passes par Jésus. Il faut que tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés, il faut que tu le reconnaisses que tu es un pécheur. Si tu arrives à Jésus, « Ouais, ben moi, je le veux ton cadeau », mais on ne veut pas se repentir, on ne l'aura pas. faut que tu sois repentant. Faut que tu veuilles changer de manière de vivre. Dans Actes 2:38, c'est le dernier verset qu'on regarde pour aujourd'hui. Pierre, il leur dit, parce que les gens, là, ils venaient d'entendre la parole, puis ils étaient touchés. Mais ils voulaient savoir quoi faire pour être sauvés. Pierre leur a dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voyez-vous, pour recevoir le Saint-Esprit, faut que tu te repentes. Faut que tu arrêtes de vouloir vivre ta vie de péché. Si tu sais que tu es pécheur, tu es déjà, parce que tu l'admets que tu es pécheur, tu vas pouvoir comprendre que Jésus il est mort pour tes péchés. Puis si tu le comprends qu'il est mort pour tes péchés, puis que tu veux changer de vie, c'est ça de se repentir. Vouloir changer de pensée, vouloir vivre, être une nouvelle créature, à changer de vie, c'est autant je marchais par là avant d'être chrétien, mais à un moment donné, en venant à Jésus, tu dis là, je veux marcher par là, avec Jésus. Mais tu vois, c'est ce changement-là, ça s'appelle se repentir, changer d'idée, changer de pensée. Se repentir, ça sous-entend aussi demander pardon pour ce que tu es, ce que tu as fait. Puis, le Seigneur, il est mort pour te pardonner. Fait que si t'es vraiment repentant dans ton cœur, tu vas tourner vers lui, tu vas dire, Seigneur, je le regrette que j'ai fait, puis je veux changer. Prends ma vie, je la donne. Jésus s'attend à ce qu'on renonce à nous-mêmes, qu'on prenne notre croix, puis qu'on le suive. À partir du moment que tu t'engages à suivre Jésus, il te pardonne tes péchés, puis là, il te donne son Saint-Esprit. Là, tu deviens une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne. Puis là, tu vas faire partie de ceux qui marchent en direction du ciel. Amen.
Amen.
Prions. Père, Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne le chemin pour être sauvé. Je te remercie, Seigneur, de l'œuvre que tu veux faire en nous pour nous amener à vivre cette nouvelle vie en toi. Prends ma vie, je la donne, je veux te suivre, je veux te servir, je veux demeurer en toi, garder cette communion avec toi. Conduis-nous, Seigneur, dans ton chemin, dans ton plan, dans ta volonté, à demeurer en toi. Puis merci de ce que tu vas faire en nous dans la suite. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.